L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie Barge avec vous. Dans cette édition, on va parler mode, mode africaine avec le grand styliste nigérien Alfadi. Alfadi que vous connaissez très bien et qui est avec nous en ligne. Alfadi, bonjour, comment ça va ?
Bonjour, comment vas-tu Nathalie ? Tout va bien ?
Ça va très bien, c'est un plaisir de t'avoir dans le magazine Au Féminin.
Merci mille fois, je suis ravie.
Alors Alfadi, on va parler de ta nouvelle collection, n'est-ce pas ? Carmen.
Absolument. Carmen. Carmen, exactement.
Pourquoi Carmen ?
Carmen, parce que c'est une image qu'on a voulu rendre à la femme fatale, une image aussi qu'on a voulu rendre aussi à la femme battante, et une image aussi pour la paix, parce que nous sommes en train de travailler sur une collection qu'on avait présentée à l'UNESCO, parce que j'ai été nommé ambassadeur et artiste de l'UNESCO pour la paix. Et quand j'ai été nommé, j'ai présenté une collection Carmen, une collection pour la paix, est une manière de pouvoir mettre la gaieté et la vivacité de Carmen dans ma collection.
Félicitations. Merci. Merci. C'est formidable.
Formidable. Je suis le premier couturier à être nommé à ce poste-là, parce qu'il y avait Pierre Berger qui est nommé, c'est le financier de Saint-Laurent et le partenaire de Saint-Laurent. Mais en termes de couturier et le créateur, je suis pratiquement le seul à être nommé. Je suis très content de pouvoir être vraiment respecté et aimé à ce niveau-là par rapport au combat que j'ai mené depuis une trentaine d'années par rapport à la création africaine et surtout à la paix dans le monde.
Alors justement, ça on précise bien, comme chacun le sait, que c'est pas seulement pour ton travail de créateur, mais c'est surtout pour la personne, le personnage que tu es, le militant, le panafricain jusqu'au bout des ongles, n'est-ce pas ?
Exactement, c'est un petit peu ça. Il y a eu d'ailleurs un article qui est sorti, il disait le plus panafricain des panafricains. C'est vrai que le combat, il est grand, le combat, il est certain. On a un continent qui bouge, un continent positif, un continent où il fait bon vivre, mais un continent où aussi il y a beaucoup de bagarres et beaucoup de haine. Et ça, je n'aime pas ça. Je suis panafricain, j'essaie de démontrer que le continent africain, plus on est unis, plus on est fort. Et on doit donner une chance à ce grand combat qui est réellement une réalité, de mettre nos forces ensemble pour faire une Afrique unie, une Afrique qui bouge et une Afrique aussi positive.
On revient sur ta collection, Carmen. Maintenant, tu vas nous en parler, Carmen. Et en plus, avec des dominantes rouges et jaunes. Rouge et jaune, c'est les couleurs de l'Espagne, mais c'est aussi une partie des couleurs du Mali, ça, non ?
Exactement. Bon, le jaune, c'est aussi le Niger, c'est aussi le Mali, c'est aussi la Côte d'Ivoire. Je rends toujours hommage à mon peuple Touareg, mon peuple Bororo, mais ces couleurs-là, c'est complètement Bororo, c'est complètement les couleurs de l'Espagne, c'est complètement les couleurs de la gaieté. J'ai mis le noir, le jaune et le rouge ensemble, avec des broderies parfaites qui sont faites à la main et même à la machine par les hommes, les brodeurs de chez moi, pour un petit peu donner quand même une dignité à la création africaine, mais à l'espoir. Et ma collection veut montrer qu'aujourd'hui, il faut la gaieté, il faut la joie de vivre. Et Carmen, pour moi, signifie tout ça. Carmen, c'est aussi le métissage avec l'Afrique, avec l'Espagne, le métissage aussi avec l'Europe. Carmen, c'est aussi une image de la femme. Et pour moi, c'est comme ça que je la vois, et c'est comme ça que je voulais donner une dignité à ce que l'Afrique doit rechercher, qu'on soit unis, et qu'on soit gay, et qu'on soit aussi pacifique dans ce que nous faisons, dans la liberté. L'Espagne, pour moi, c'est complètement la dureté de la vie. Ils ont eu beaucoup de soucis aujourd'hui. Ils commencent à sortir des sentiers battus. Ils commencent à avoir leurs vraies valeurs. Et je crois que tout ça, c'est ce que l'Afrique aussi a subi. Carmen et l'Espagne, c'est aussi la colonisation espagnole, la colonisation arabe. c'est aussi la colonisation de tout un peuple qui est devenu un monde meilleur, la mondialisation, l'esprit du métissage. Voilà. Mmh.
Alors Carmen, c'est aussi une histoire d'amour. Hein. Alors, dans ta collection, on peut remarquer une certaine brillance, hein, une certaine mélodie, une certaine harmonie, un petit peu comme dans la musique de Bizet finalement, dans la musique de Carmen.
Exactement, tu as vu cette brillance, tu le trouves dans tous les tissus. On a mis de la gomme arabique, on a travaillé les matières premières, on les a frappées. C'est le bazin. C'est un peuple qui fait que du bazin, qui vit du bazin dans la brillance. Ce bazin, quand il brille, c'est Carmen. Ce bazin, quand il brille, c'est quand même la valeur. C'est aussi l'amour. L'amour entre les hommes, c'est une chose incroyable que nous cherchons tous les jours. Et donc, le bazin est d'origine malienne. Il est travaillé au Mali, il a été teint au Mali. Et c'est cette brillance qu'on voit sur mes matières et les broderies pareilles. Donc les bazins, on le porte aussi que dans des manifestations de grandeur, les mariages, les grands baptêmes, les grandes cérémonies. C'est une manière de pouvoir rendre hommage aussi à cette belle matière qui est le bazin, que j'ai voulu travailler dans des rouges, dans des couleurs de gaieté qui amène l'Afrique aussi à l'Europe, à la diversité culturelle.
Carmen, c'est aussi le style de la gitane finalement. Alors dans ta collection, la collection Carmen, tu t'es vraiment concentré sur le style d'habillement de la gitane.
Mais tu as vu, toutes les grandes jupes, elles sont des grandes jupes de gitane qui couvrent tout le corps. Carmen n'a jamais été une courte. La gitane a toujours été la pudique, la pideur. Donc toute la collection, tout est dans la longueur, dans les jupes espagnoles, dans les mélanges de foufou, que je voulais démontrer que l'Afrique aussi a ce sens-là. Cette paix, c'est aussi ça.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien au vin qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Et en effet, menace aux prières, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît.
Moi, je reviens sur l'opéra de Carmen. Hein. Je fais ma fixation là-dessus. Au 19e siècle, quand il est sorti la première fois, il avait choqué, il avait scandalisé. Et puis bon, on connaît la mode d'Alfadi, cette mode magnifique. Est-ce que cette fois-ci, dans ton état d'esprit, dans cette collection, tu n'as pas voulu choquer du tout ?
Exactement, tu as tout compris. Je suis le président d'un festival qu'on fait dans le Niger, c'est le FIMA. Chaque fois, c'est des bagarres, hein, en croyant qu'on était contre l'islam, que nous voulons montrer que des femmes dénudées, parce que dans le désert et dans un pays musulman. J'ai voulu démontrer que Alfadi ne veut pas choquer. Ma collection a toujours été des longueurs, des jupes longues, des robes longues, style Carmen, pour essayer de démontrer quand même le respect de la création, mais le respect aussi des valeurs humaines, et le respect aussi de la religion. Et nous voulons absolument pas montrer que du dénudé, même que dans mes collections anciennes, je les ai fait. J'ai dénudé la femme, c'est vrai, j'ai mis des jupes courtes, mais cette collection est dédiée à Carmen, est dédiée à ses longueurs, est dédiée à sa voix, est dédiée à sa musique, est dédiée aussi à l'esprit que aujourd'hui Carmen, comme l'Espagne, comme l'Afrique aujourd'hui a, par rapport à ce que nous aimons, la pudeur, l'immensité de ces belles jupes magnifiques que tout le monde peut porter.
Tu vas revenir sur le cours quand même, parce qu'il peut y avoir une certaine pudeur dans le cours, tout dépend comment cela est traité finalement.
Il y a une jupe courte ou deux que j'ai montré là-bas, dans cette collection de Carmen, qui était aussi en rouge, qui était en jaune et en noir, qui était magnifique. Mais je reviendrai dans les cours, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, dans le cours, c'est un petit peu les valeurs de la mode aujourd'hui. Mais uniquement, nous voulons démontrer qu'aussi, on n'a jamais été que court. On est aussi long. On est aussi dans des collections qui peuvent plaire à tout le monde, des jeunes, des vieilles, qui peuvent porter cette collection de Carmen, mais qui est surtout en longueur.
Mais c'est beau le long, hein ? On ne le porte pas assez le long, en fait. Vous le portez beaucoup en Afrique, mais c'est très beau.
Le long est très beau. Le long est magnifique pour moi. On peut très bien porter du long transparent, même si on doit mettre un petit peu sur les fesses pour qu'on ne voit pas le corps. Mais le long est toujours magique. Et pour moi, le long a toujours été préféré de mes collections. J'adore les longs. Comme Carmen, j'ai mis beaucoup de châles aussi, châles de la haute couture, pour couvrir les épaules. Carmen a toujours été ça aussi.
Et le long va aussi bien aux femmes qu'aux hommes finalement, hein ? Tu habilles les hommes aussi. Parlons un petit peu des hommes dans tes collections, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais tu habilles les hommes, bien sûr.
J'habille les hommes. J'ai créé cette année une collection qui est des superpositions de pièces. Les hommes ont toujours porté des deux pièces, des costumes, des chemises. Mais cette année, j'ai créé des trois pièces, des quatre pièces. Le châle, plus le bonnet, plus des superpositions de pièces dans deux tons, trois tons. Et en adoucissant même le pantalon qu'il porte, ça a beaucoup été aimé. Les gens ont adoré ma collection homme qu'il porte. J'ai créé d'ailleurs des costumes sur lesquels il y a des petits boubous en longueur en dessous. Au lieu de porter une chemise en dessous avec des cravates, non, on porte uniquement un costume. En dessous, il y a l'habillat en bas, qui est génial, qui arrive au niveau du mollet, qu'on porte ensemble, qui est très original. Et on porte aussi un châle. Un châle, c'est-à-dire comme un turban en touareg que j'ai modernisé, qui s'est mis au goût du jour. Et les hommes adorent le porter, ils adorent le mettre sur eux pour aller à des cocktails, pour aller à des mariages, et même pour aller pour sortir tous les jours. Mm-hmm. L'homme, pour moi, commence à avoir un côté clin d'œil. On commence à penser à l'homme beau, à l'homme élégant, à l'homme roi, très princier dans ce que je fais pour mes collections hommes.
Ouais, c'est très beau un homme élégant. Et d'ailleurs, à propos d'homme élégant, Alfadi, moi je t'ai vu sur ton Facebook, tu étais au Maroc, je crois. Tu avais une tenue magnifique, justement, à trois pièces. C'est une tenue de toi ?
Oui, tout à fait.
C'est beau.
Marron, les marrons que tu as vus, les marrons clairs, marrons foncés. Toute la collection était superposée avec la veste qui est faite en basin, complètement brillant aussi comme la collection le voulait cette année. Et le reste est brodé complètement. C'est ma dernière collection.
Alors, on peut revenir sur la Black Expo Design qui s'est tenue à Montréal récemment.
Je suis allé là-bas pour l'événement en tant qu'invité d'honneur. Et ils ont invité beaucoup de créateurs. Des créateurs du monde noir. Il y avait Haïti qui était là, la Martinique, la Guadeloupe, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait Alfadi aussi, en tant que du Niger, en tant que parrain et en tant que aussi invité d'honneur pour un petit peu mettre du piment. C'est moi qui ai fait la clôture de ce Black Expo Design. Ils ont montré aussi une collection pour les enfants et j'ai animé aussi une conférence sur le dynamisme du noir, sur l'esprit noir. Leur image, leur visibilité, leur esprit dans la création, mais surtout le développement de la création dans la sensibilisation de la création d'emplois dans le domaine de la création avec les Noirs. Bon, on a parlé de ce que les Noirs, en général, n'osent pas mettre beaucoup d'argent dans l'industrie de la création ou dans l'industrie de la contemporain. Et je crois qu'on a un travail incroyable. J'ai 34 ans de création, mais jamais tu verras des créateurs noirs financés par des gros industriels noirs, par exemple. Mm-hmm. Donc, ou même dans le cosmétique. Moi, j'ai créé mon parfum. Je suis en train de vouloir faire beaucoup de choses dans le domaine de la marque Alfadi. J'ai créé le jean, le sportswear Alfadi. Un créateur noir n'a jamais eu aussi la chance d'être amené au niveau mondial ou au niveau international, oui. Parce qu'uniquement n'a pas les moyens qu'il faut, n'a pas les communicateurs qu'il faut, n'a pas l'esprit qu'il faut. Et ça que nous voulons absolument changer, parce que la donne doit être changée complètement. Un créateur noir est aussi grand qu'un créateur européen, américain ou un créateur d'Israël. Ça, c'est important que nous ayons cette notion de donner une dimension à la mondialisation et que les créateurs africains ou du monde noir soient avec eux. Donc alors, on a besoin qu'ils soient respectés, qu'ils soient aimés et que les Européens, les Américains, les Blancs aussi puissent s'intéresser à cette manière pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour amener nos créations dans des grands magasins à New York, à Tokyo, à Paris.
Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant...
Alfadi, comment faire pour que les femmes blanches s'habillent plus en mode africaine ? Parce que, en fait, on a le sentiment qu'elles sont trop timides, les femmes blanches. Elles n'osent pas mettre la mode africaine. Elles adorent ça. Et je suis la première, hein, j'adore la mode africaine, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les femmes blanches osent porter ?
Pour un début, il faut le casser. Il faut mettre de l'uni en haut et des couleurs africaines en bas. Pour, au fur et à mesure, porter une petite robe africaine avec des dessins, des couleurs sympathiques en bas et prendre une veste unie au-dessus. Ou le foulard. L'Européen ne porte pas un foulard en général. Ce n'est pas dans leur culture. Mais il peut porter des petits bonnets, des accessoires sympathiques qui vont être mélangés, ou porter simplement tout, un vêtement tout noir ou tout gris, comme elle le portait, mais apporter un très beau bijou africain dedans et prendre un châle africain de couleur gay. L'européenne peut être magnifique. La couleur de la peau, qui est très blanche des fois, ne peut pas aller avec des couleurs très extravagantes. Mais il y a des couleurs africaines qui ne sont pas forcément des couleurs 10 couleurs ou 5 couleurs. D'ailleurs, j'ai toujours dit que les couleurs qui ont été créées par aujourd'hui les grands Européens, que je dis les Hollandais, qui ont amené sur le continent noir des couleurs dans un seul tissu, 5 couleurs, 10 couleurs, n'est pas des couleurs africaines, c'est des couleurs commerciales. Voilà, c'est des batiks qu'ils ont amenés de l'Indonésie, qu'ils ont amenés sur le continent africain. Ils ont créé un tissu pour l'Afrique. C'est eux qui ont forcé à le faire. L'Afrique a des couleurs bleues, Touareg, des couleurs noires, des couleurs marron, des couleurs rouges. L'Afrique a ses vraies valeurs, a ses vraies couleurs. Mmh. Vous mettez des couleurs. Il y a le bogolon, qui est une couleur africaine qui est de deux couleurs seulement, le noir et le blanc. Il y a des couleurs aussi, le kita, qui est de trois, quatre couleurs. L'Europe, par rapport à la dimension de recherche de fonds, d'argent sur le continent africain, ils ont créé ces couleurs-là, qu'ils ont balancées sur le continent africain, et c'est resté.
C'est resté. Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que tu viens de dire. Hein. Tu as dit les femmes européennes blanches ont la peau trop blanche, ça va pas bien avec beaucoup de couleurs. Et c'est vrai que avec la peau noire, on peut porter vraiment toutes les couleurs finalement.
Je suis d'accord avec toi. Mais la peau blanche. Aujourd'hui, j'étais devant la télévision ici à Paris. Une présentatrice a porté une chemisier d'un panafricain extraordinaire. Il l'a unie avec un pantalon noir. C'était magique. C'était uniquement. Il faut oser. Il faut oser, mais il faut le mélanger. L'Africain va porter le haut, le foulard et la jupe, la même couleur.
Oui. Alpha dit, tes mannequins, elles sont toutes noires ?
Ah non, non, non.
Tu as des blanches aussi ?
Ah, il y a des blanches, je suis obligé. Le multiculturalisme pour moi est très important. Mais je suis noir, c'est vrai, je suis africain, c'est vrai. Mais moi, ma mode est mondiale, elle est internationale. Et c'est comme ça que je grandis, et c'est comme ça que je suis en marquette partout. J'aime le monde noir, je suis très panafricain dans ce que je fais, mais j'aime les autres aussi. Ben sans les autres, on n'est rien du tout. Je suis obligé de me donner, d'accepter mon combat pour l'Amérique, mon combat pour la France, mon combat pour l'Allemagne, en mettant toujours un Africain avec, en faisant voir ma collection dans une diversité culturelle extraordinaire. C'est ça le combat que je mène. Absolument, je suis mondial, moi.
Tu es bel et bien mondial, Alpha Di. Dis-moi, je reviens encore sur Carmen. Tu chantes, Carmen ? Non, depuis que tu as fait cette collection, cette collection, est-ce que tu n'as pas des petits airs de Carmen dans la tête ? Parce que moi, j'en ai un, là.
L'image, sa beauté, son agressivité. Et moi, c'est Carmen. Je crois que pour moi, l'opéra, la musique classique de Carmen, la beauté de Carmen, l'image de Carmen, et ce que nous faisons tous les jours. L'Afrique a ce côté, et l'Afrique aussi adore Carmen.
Donc c'est un hymne à la femme, ta collection, hein ? Est-ce que l'amour est en fond de bohème ? Est-ce que l'amour est un oiseau rebelle ?
Mais pour moi, l'amour, c'est la vie. Mm-hmm. Mais sans amour, il n'y a rien du tout. Je vis d'amour tous les jours. L'amour de ma famille, l'amour de mes amoureux, de mes amoureuses, l'amour de mes enfants, de ma femme, et l'amour aussi du monde qui m'entoure. Je suis complètement amoureux de ce que je fais aussi. Donc, j'adore le monde, j'adore les personnes, et amour, pour moi, veut dire vivre. Continuer à vivre et continuer à donner.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et d'avoir parlé de ta nouvelle collection. On se revoit bientôt, Alpha Di.
À très bientôt. Merci beaucoup, Nathalie.
Parole de femme.
À Cotonou, comme dans toutes les capitales africaines, la mode tient une place de choix. Les femmes aiment être à la mode et montrer qu'elles sont dans les nouvelles tendances. Ainsi, elles ont fait leur entrée dans le monde du placement de fossiles, qui n'est pas vu d'un très bon œil par tous, comme en témoigne ce reportage de Ginette Fleuradandé.
Elles sont nombreuses, ces femmes cotonoises, qui pensent que le regard est un pouvoir de séduction implacable. Il faut donc aiguiser le regard pour le rendre foudroyant. Pour y arriver, elles s'adonnent au placement de faux cils.
Moi, je place les cils d'abord pour moi-même. Je les place à des occasions spéciales, pour des grandes sorties, car ça me métamorphose et je me sens bien dans ma peau.
Moi, je place les cils parce que les cils me rendent belle. Mon mari me trouve encore de plus belle et ça pimente encore le couple, quoi.
Regard foudroyant ou pas, certaines femmes préfèrent rester en marge de cette mode qui, selon leur dire, fait plus de mal que de bien.
J'ai pas l'habitude de faire. Je sais des choses qui font beaucoup mal. Parfois, quand tu fais, tu n'es pas à l'aise. J'ai fait une, deux fois, je ne suis pas trop à l'aise, je suis obligée d'enlever. C'est tout comme si tu pleures, quoi. C'est tout comme si tu ne vois pas de loin. Il faut écarquiller les yeux, regarder correctement avant de voir la chose, alors que la chose est devant toi.
Je ne vais jamais même faire ça. Parce qu'il y a des gens, en faisant les signes le matin, ils n'arrivent même pas à ouvrir les yeux. Ça endommage les yeux, mais on ne sait pas.
Celles qui vont dans les instituts de beauté ont de la chance de s'en sortir sans grand danger. Mais pour celles qui préfèrent, à moindre coût, se faire placer les cils au bord de la voie, sont exposées à tous les dangers. Rien qu'à écouter celle qui a pour métier de placer les faux cils, on se fait une idée du mal que certaines femmes se donnent au nom de la beauté.
Pour placer du cil, tu prends tes cils qu'il te faut. Il y a moyen, petit et long, laquelle tu choisis. Bon, on pose ça avec du colle. Les cils naturellement que tu as, on ouvre ça et puis on met du colle dedans et replace les faux cils. Des fois, si les gens finissent directement, ils vont à la pharmacie pour acheter des médicaments, commencer par mettre sur les yeux. Ça fait mal, difficile à dormir. Comme on voulait être belle ou bien pour faire belle, on est obligé de supporter.
Pour l'ophtalmologue, le phénomène est au cœur de plusieurs interventions chirurgicales, s'explique.
Souvent, ces cils-là qu'on met, des fois ça tombe, ça se renverse sur l'œil et ça touche la cornée. Là, de temps en temps, ça gratte, ça fait des lésions sur l'œil. Alors que nous sommes en Afrique, quand il y a ces lésions, il y a la moindre poussière qui rentre dedans, là, la plaie s'agrandit. Si on ne sait pas faire, ça va nous créer pas mal de problèmes. L'œil est infecté et jusqu'à ce que, des fois, on enlève l'œil. Hein. Tout dernièrement, on en a rencontré, on était obligé d'éviscérer l'œil.
La beauté a un prix, mais s'il doit vous coûter les yeux de la tête, mieux vaut s'abstenir. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VO Afrique.
Entre parenthèses. Dans le sud Kivu, en RDC, 3000 adultes, principalement des femmes des milieux ruraux, ont été formés en alphabétisation à travers un programme américain. Notre correspondant Ernest Mouero nous en dit plus à travers ce reportage.
C'est ici, à Kanyola, en territoire de Walungu, que l'organisation prestateur AIBF, appui aux initiatives de bien-être familial, a amorcé la cérémonie de clôture au sud Kivu des cercles d'alphabétisation dans le cadre du projet Tufaidi Kewote, appuyé par USAID à travers CARE International. Au total, 3000 adultes, en majorité femmes, ont appris pendant 6 mois à lire et à écrire dans 5 groupements en territoire de Walungu, Mwenga et Kalehe.
Angèle Baïgué, coordonnatrice de l'ONG locale AIBEF.
Au gouvernement américain, nous disons merci sincèrement pour les collectes qu'ils ont toujours fait pour nous. L'œuvre s'arrêter à ce niveau-là, c'est comme si c'est de l'eau qu'on est en train de verser sur le dos du canard. Mais j'aimerais qu'il y ait continuité. Et là, je serais vraiment fière de pouvoir retrouver ces femmes-là en train de faire des calculs de rentabilité dans les petits commerces qu'ils sont en train de faire dans des petits marchés ici localement.
En ce moment des clôtures pour Kanyola, 600 brevets ont été remis aux alphabétiseurs à l'intention de leurs apprenants après des séances d'apprentissage. Cette apprenante, la quarantaine près, ne cache pas sa satisfaction.
Je suis très contente, vu qu'avant je ne connaissais absolument rien. Aujourd'hui, je peux lire et écrire. Je souhaite que cette formation continue pour que je sache beaucoup plus.
Soucieux de ne pas laisser tomber cette initiative qui est fait un projet alors que les besoins restent réels, le résident et ressortissant des Kanyola ont convenu spontanément de pérenniser l'alphabétisation des adultes dans leur milieu.
Lui, Marie Moulouméo Deroy, coordonnateur des écoles conventionnées catholiques en territoire de Walungu.
Nous devons en tout cas nous souder les coudes pour que chacun de nous, en mettant des moyens ensemble, nous puissions au moins aider ceux-là qui sont encore dans l'ignorance de savoir lire et écrire. Notre concours, c'est que, qu'ils sachent que les locaux que nous avons, c'est à eux, mais ils ne peuvent y avoir accès que si, dans la mesure où ils sont conscients qu'ils doivent en faire un bon soin.
Sur place, plusieurs témoignages des apprenants ont clôturé cette séance sur la manière dont savoir lire et écrire a bouleversé positivement leur existence.
Ernest Mouero à Kanyola, à 64 km de Bukavu, pour VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté le magazine au féminin de VOA Afrique. Au revoir et à très bientôt.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you, round two. You open your eyes, flat on your back, you look to the sky, you rise. We'll be right back.